Le 22 mars dernier, je me suis levé comme à tous les matins, puis je suis allé reconduire les enfants à l'école et à la garderie. Je suis revenu à la maison, j'ai commencé ma petite routine de travail, c'est-à-dire ouvrir mes courriels, planifier le travail de la journée. Et avant de me mettre au boulot, je suis allé faire un tour sur Facebook et là, j'ai été consterné. Consterné par ce qui arrivait, les attentats à Bruxelles. De voir, premièrement, la première chose que j'ai vue, c'est que quelqu'un que je connais en Belgique faisait un check-in pour dire qu'il était sain et sauf. Et là, j'en ai vu d'autres passer. Et là, j'ai vu des amis belges qui s'inquiétaient pour la famille. Certains qui avaient des proches qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas rapporté le fait qu'ils étaient sains et saufs. Et beaucoup d'inquiétudes. J'ai vu aussi la déferlante de messages, tout ça, par rapport à tout ça. Et je ne savais pas quoi écrire. J'avais pourtant besoin de m'exprimer. J'ai fait ce que je sais faire le mieux, du graphisme. J'ai fait une image, Tintin qui pleure. Cette image-là était extrêmement simple. Je l'ai fait presque machinalement, à la manière presque d'un logo. Une illustration très simple, pleine d'impact. Fond rouge, Tintin en noir dans l'ombre, avec une larme qui coule de couleur jaune aux couleurs du drapeau belge. Très rapidement, en 10 à 15 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'était sur les réseaux sociaux. Je l'ai posté avec simple but de communiquer ma peine, un peu comme si je me personnifiais à travers Tintin. Et partager ça, finalement, à mes amis, ma communauté numérique. Ça a pris un petit peu de temps à être retweeté. J'ai pas mis de mots-clés, j'ai pas écrit de texte. J'ai simplement créé un mot-clic à ma façon, disant « Je suis belge », tout simplement. La plupart des gens ne savaient pas que c'était moi qui avais fait l'image. Et mon but, c'était pas nécessairement de me vanter ou de communiquer, mais simplement de juste de dire « Je suis avec vous, je suis triste, moi aussi ». Au bout de quelques heures, ça a été republié. Ça a commencé à avoir beaucoup d'impact. Ça s'est retrouvé dans certains journaux. D'abord du côté du Royaume-Uni. Ensuite, dans les médias de presse américains. Ça s'est retrouvé à CBC, au journal le soir, The National. Et ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige, mais ce qui est un peu inquiétant là-dedans, c'est que malgré que des influenceurs du Québec. Je pense entre autres à Denis Coderre, mais il y a plein de gens qui l'ont partagé, republié. Ça a passé complètement sous le radar dans tous les médias québécois, sauf un, Le Devoir, qui l'a mis en mortaise dans un article sur les gens qui s'exprimaient visuellement face aux attentats en Belgique. Évidemment, depuis ce temps-là, ces médias-là ont réalisé que j'avais produit ça, ont réalisé aussi l'impact que ça a eu ailleurs dans le monde et ont finalement fini par me contacter, eux aussi, après qu'un journal londonien l'ait fait, après que plusieurs médias internationaux l'aient republié. C'était maintenant à leur tour. Ça me désole un peu, en même temps que, bon, ça me fait quand même plaisir, c'est flatteur. Qu'on parle de moi et qu'on m'interviewe. En même temps, c'est un peu triste de voir passer par le regard international, le regard des autres, pour pouvoir, à quelque part, avoir de la valeur ici. Pourquoi ça n'a pas été republié? Ben parce que, malheureusement, les journalistes ici au Québec ont tendance à regarder ce que les autres journalistes publient dans les médias sociaux, ne sont pas abonnés aux influenceurs, ne sont pas abonnés à ceux qui créent l'événement, qui créent la nouvelle. Donc, ils sont au courant de quoi? Ils sont au courant de la nouvelle qui existe déjà. Ils lisent les autres journalistes, donc ils sont au courant de la nouvelle lorsqu'elle est déjà publiée dans un autre média. Et à force de faire ça, malheureusement, ce qui arrive, c'est que ils ne créent pas la nouveauté, ils ne font que suivre la parade. Mon nom est Sylvain Grandmaison, Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il a avait su faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père, ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps Bruxelles Bruxelles.
Oui, honnêtement, j'espère que Bruxelles se remettra à bruceler et retrouvera sa joie de vivre, finalement, son côté bon enfant qu'ont les Belges. Et ben, je salue, justement, les auditeurs belges ou originaires de la Belgique qui sont ici. Je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent. Il y a entre autres, je crois, c'était Michel Charles qui avait fait un check-in pour dire qu'il était sain et sauf. Je te salue. Il y a aussi, je crois, Muriel Hyde qui écoute encore mon podcast, qui faisait partie de ceux justement qui communiquaient et qui disaient que bon, qu'il y avait de la famille et que t'es pas certain que tout le monde était sain et sauf. Donc, des gros événements, je sais, pour ces gens-là. Et je suis évidemment de tout cœur avec vous. Oui, j'ai fait quelque chose qui a été viral, pas juste au Québec, c'est ça qui est surprenant et qui est amusant de façon mondiale. On a tendance à parler justement de viralité parce qu'on fait le parallèle entre une maladie lorsqu'on parle de ces phénomènes-là, où est-ce que ça se propage d'un internaute à l'autre de façon organique. Oui, la propagation ressemble à un virus, mais d'un autre côté, moi, je trouve que ça ressemble un peu plus à un tsunami. Pas nécessairement parce que c'est gros puis ça crée des dégâts, mais vous allez voir l'analogie et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'au début, il y a un événement. Dans ce cas-ci, c'était les attentats. Donc, qui est comme, dans le cas d'un tsunami, le tremblement de terre, donc le choc qui arrive. Et ben moi, suite à ce choc-là, j'ai produit quelque chose. OK? Donc ça, c'est l'étape tremblement de terre. Et là, au départ, ça prend un certain temps. Et là, ça part en vrille. C'est le tsunami. Le tsunami qui vient puis qui balaie tout sur son passage et qui est incontrôlable. Et lorsque l'eau a fini de monter, elle se met plus doucement à redescendre qu'elle est montée. Et par la suite, le ressac, donc cette eau-là qui retourne à sa place, qui retourne à la mer, déplace beaucoup plus que la vague initiale, déplace beaucoup, beaucoup plus de choses sur de plus longues distances. Et ça, c'est comme quand vous êtes sur le bord de la plage, puis il y a des vagues. La vague arrive, puis ça fait quand même un gros plouch, et ça déplace beaucoup de grains de sable, mais sur une très courte distance. Et c'est spectaculaire. Et c'est un peu la première vague qui arrive lorsqu'un phénomène viral se propage. Ça se fait rapidement, c'est spectaculaire, mais en même temps, ça déplace pas tant que ça quand on regarde de plus près. C'est par la suite, lorsque la vague se retire et là, les choses se remettent en place et qu'on met les choses en perspective, c'est là que ça prend beaucoup plus d'importance. Par exemple, moi, sur le coup et le lendemain, dans les deux jours qui ont suivi, j'essayais de trouver des images, des traces de mon image et moi, je ne trouvais pas qu'il y avait eu une si grande viralité, qu'il y avait eu un si grand impact que ça parce que je faisais la recherche Google, je ne trouvais pas. J'allais dans Google Images, puis il n'y avait presque rien. C'est parce que l'engin de Google n'avait pas encore répertorié toutes les traces de cette image-là. L'autre chose aussi, c'est que les médias n'ont pas toujours cité mon nom, ont parfois cité mon tweet en intégralité dans leur texte, mais n'ont pas toujours cité mon nom, ont plutôt cité mon nom d'usager Twitter, tout simplement. Et ça, c'est quand ils l'ont fait, parce qu'il y a certains médias qui ont simplement récupéré un paquet d'images qui avaient été produites par moi et d'autres, et ont mis ces images-là, ont fait un texte, mais ils n'ont pas nécessairement crédité. Et aussi, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens, à place de republier le message original de Twitter, ont enregistré l'image et l'ont republié eux-mêmes un peu partout. Donc, ça fait en sorte qu'on perd complètement le fil. Il y a des gens qui l'ont vu dans les médias ailleurs dans le monde, puis qui m'ont contacté. Mais ils m'ont contacté pas sur le coup. Ils m'ont contacté deux jours plus tard quand ils ont vu qu'il y avait des textes qui s'écrivaient là-dessus et qui ont dit hey, « Je sais, je l'ai vu dans des médias, mais j'en ai aucune idée lequel. » Ça a passé à la télé le soir, par exemple. Donc ça aussi, c'est flatteur. On perd le compte. C'est flatteur, mais d'un autre côté, le spotlight, la lumière n'est pas mise sur moi, est mise généralement sur l'image, puis sur ben, ce qui est arrivé. Et c'est là, selon moi, que la lumière doit aller. C'est aussi pour ça que, après coup, cet impact-là, où les médias se sont intéressés plus au phénomène et m'ont contacté bien par après. Et je dirais que c'est un peu parti de moi, parce que j'ai communiqué à quelqu'un pour dire bon, il s'est passé ça à l'international, ça a été publié dans tel média. Il y a un média britannique qui m'a appelé sur mon téléphone pour m'interviewer, puis il y a eu tel truc, voulez-vous en parler? Et ça aussi, ça fait boule de neige. Donc, dans les deux cas, c'est un peu venu de moi, l'effet boule de neige. et ça aussi, c'est intéressant, mais c'est sûr que, bon, il y a eu la première interview ici, au Québec, qui a mené à une interview à Radio-Canada, qui a mené à une autre interview avec un autre média, avec deux, trois, puis quatre médias. Puis là, ben, on commence pas mal à avoir fait le tour. J'ai fait pas mal le tour des hebdos régionaux aussi avec ça, en plus. C'est de l'attention que je demandais pas nécessairement. Et dans tous les cas, ben, moi, j'essaie de la redistribuer vers ce qui est arrivé, vers la tragédie. Et aussi, étudier le phénomène viral pour en parler. J'écris un texte d'ailleurs sur Facebook là-dessus que je republierai peut-être dans le groupe de Québec Balado qui est un peu ce que j'ai appris des médias par rapport à cet événement-là. T'sais, je connais bien les médias, je connais bien le web, les réseaux sociaux, mais ça a été très révélateur. Puis c'est juste une portion parce que je suis encore en train d'analyser qu'est-ce qui s'est passé et tous les endroits où ça a été publié. Et ça, c'est amusant. J'essayais de parler de ça justement aux médias, aux journalistes, pour leur dire « Oui, il y a eu un impact sur le moment. Oui, ça a été publié sur Twitter, Facebook. Oui, il y a des gens qui la sont mis en image de profil, mais depuis ce temps-là, il y a bien d'autres choses. Ça a circulé même encore plus sur Tumblr que sur Twitter, ce qui m'a beaucoup surpris. Ça fait du chemin sur Pinterest. Il y a plein de gens, de designers, à travers le monde qui la republient dans leur tableau Pinterest. Et ça, ça me touche. Ce qui m'a touché le plus, il y a deux choses. C'est quand les designers et les illustrateurs d'un peu partout ont liké, ont partagé, m'ont félicité. Ça me touche beaucoup parce que professionnellement, ça valide mon travail. D'un autre côté, c'est que ça s'est rendu très proche du pouvoir belge et pas juste très proche au pouvoir belge, c'est-à-dire l'attaché politique, personne responsable des communications du premier ministre belge, l'a mis en photo de profil et m'a félicité de l'image, m'a dit que c'est juste parfait et merci de mettre mon talent à contribution. Il y a aussi une députée belge à l'Union européenne qui l'a utilisé comme image pour publier un texte dans les 2-3 jours suivants les attentats. Et elle était sans mots, elle a écrit en flamand qu'elle était sans mots et que ce qu'elle a fait, elle a d'une part utilisé mon image, d'une part utilisé le poème d'un poète belge que j'ai traduit à partir de Google Translate pour comprendre parce que c'était écrit en flamand. Donc je pense que ça fait pas mal le tour de ce phénomène-là. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous parler de balado-diffusion. Mais, avant d'aller plus loin, attendez un instant.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien.
Oh oui, ça sent la bière parce que c'est le carburant de la semaine. Ça s'appelle Les Curieux. C'est produit par les Brasseurs du Monde. Les Brasseurs du Monde qui produisent une tonne de bière, certaines très bonnes, certaines un peu moins. Et ils ont un vilain problème. C'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup trop de produits. Je trouve personnellement qu'ils se dispersent et c'est sûr que ça doit être le fun pour le maître brasseur qui brasse plein de bières différentes. D'un autre côté, le consommateur a de la misère à s'y retrouver. Ils ont toutes sortes de gammes, mais qui ne sont pas clairement identifiées. Leurs étiquettes laissent souvent à désirer. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Ceci dit, il y a certaines bières que j'achète à l'occasion que je reviens boire. Et il y a une bière, entre autres, que ma blonde adore, qui s'appelle l'Infusée, et que je dois dire, moi aussi, j'aime bien. Une bière, pas juste aromatisée au thé, mais une bière qui... où est-ce que vraiment on utilise vraiment du thé, là, et c'est extrêmement présent, et c'est quand même très bon. La bière qu'on a aujourd'hui s'appelle Les Curieux. C'est une Nut Brown Ale. C'est un type de bière qui est traditionnellement britannique. Et attendez un petit peu, je vais vous lire ce qui est écrit sur la bouteille. Ça dit « Issue de tradition brassicole anglaise du 18e siècle, où elles étaient alors brassées avec 100% de malt grillé, les Nut Brown Ale sont revenu en popularité vers 1920 et contenait principalement du malt pâle ainsi qu'un certain pourcentage de malt spécialisé. Les Curieux, avec ses saveurs maltées et son goût de noisette grillée, s'inspire de ses traditions du nord-est de l'Angleterre, mais sa robe foncée et ses saveurs un peu sucrées font tout de même un clin d'œil aux versions du sud. Les Curieux satisfera-t-il votre curiosité? Et ça dit « Aucune noix n'est entrée dans la fabrication de cette bière. » Il faut savoir que les bières anglaises au 18e siècle et au 19e siècle étaient produits par les maltes qu'il y avait à l'époque. Les maltes qu'il y avait à l'époque étaient plus foncés que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça des maltes pâles, les pale malts. Donc, ça donnait des bières, à peu près toutes les bières étaient foncées jusqu'au début, milieu des années 1900, autour de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que là, vraiment, c'est les maltes pâles qui ont entièrement pris la relève. Donc, pour refaire une bière comme ça, faut souvent utiliser des maltes pâles et des maltes extrêmement foncées pour simuler ces couleurs-là et ces saveurs-là. Quoique, il y a encore des brown malt et ça tend à réapparaître. On tend aussi à voir des variétés de malt qui avaient disparu et qui refont surface, donc en petite quantité, mais de plus en plus dans des bières commerciales. Donc, je la débouche. Donc, il y a une saveur très puissante qui se dégage. C'est un peu caramel, malt grillé, oui. Et aussi de houblon. C'est un style de bière où est-ce que une certaine oxydation, donc une bière qui a vieilli, est souhaitée. Donc, a vieilli, mais aussi s'est oxydé à l'air. C'est souhaitable dans certains cas, dans ce type de bière-là, ce qui est généralement pas le cas dans tous les autres types de bières. Et ça semble présent au nez dans cette bière-là. Je vais vous la verser. Quand même. Ça fait une belle mousse brune. Faut savoir que, si ma mémoire est bonne, dans le sud de l'Angleterre, on aime la bière plus flat, donc moins pétillante. Dans le nord, un peu plus pétillante. On dit que c'est un mi-chemin entre les deux. En fait, il y a beaucoup d'effervescence pour ce type de bière-là. Je vais la goûter. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de présence de houblon anglais. Oui, il y a cette oxydation-là, ce côté un peu noisette, maltée. Oxydation, mais pas tant que ça en même temps. Il faut dire que, selon ce que je goûte, cette bière-là serait une version assez fraîche. Ça fait pas très longtemps qu'elle est en bouteille. Personnellement, je suis habitué à des versions qui ont vieilli un petit peu plus longtemps. Oui, c'est très bon. Et je crois qu'ils utilisent la même levure, justement, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, au goût. Elle a la même levure que l'infusée, je suis à peu près sûr. Je vous la conseille quand même, si vous aimez les bières anglaises, ça le fait, là, ça ressemble beaucoup à la vraie chose. Sinon, si vous allez à la SAQ, vous voulez goûter à une vraie Nut Brown Ale anglaise qui, elle, a un goût assez oxydé, qui est un classique parmi les classiques, la Samuel Smith Nut Brown Ale, c'est aussi extrêmement, extrêmement bon. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il y aura une déferlante de nouvelles au niveau technologique, mais aussi au niveau du podcasting. Donc, la première, une nouvelle techno, celle-ci, qui est une assez bonne nouvelle pour Montréal, je dois dire, parce que on dit que Teralis Capital a monté un fonds d'investissement de 375 millions de dollars pour les startups canadiennes. Donc, Teralis Capital est basé à Montréal. Ce fonds-là a été mis sur pied, entre autres avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Donc, c'est une très bonne nouvelle justement pour cette compagnie de fonds d'investissement-là, mais aussi une bonne nouvelle pour les startups. De ce que j'ai vu dans les nouvelles, de plus en plus, où est-ce que ça se passe au Canada pour les startups? Évidemment, c'est à Montréal. Ça l'était déjà. Toronto était aussi très présent, mais au niveau investissement, ça s'en vient de plus en plus à Montréal que ça se passe. Et ça, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Juste pour vous donner une idée, Teralis, il focus évidemment sur les startups et il gère plus de 1,6 milliard de capital pour investir dans au-delà de 600 compagnies. Donc, c'est absolument immense. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les retombées puis voir continuer à grossir les startups ici au Québec. Autre nouvelle, mais en fait, pas des nouvelles, mais je vais vous parler de différentes applications pour faire des podcasts. La première que je n'avais pas du tout vue, qui n'a pas beaucoup de mots-clés qui sont faciles à trouver dans le iTunes Store, c'est une application qui s'appelle Mobile Podcaster. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez enregistrer et publier l'audio, donc le podcast, directement à partir de votre iPhone ou votre iPad et le publier directement par Wi-Fi. Donc, vous n'avez pas nécessairement à transférer via un autre service. Vous pouvez vraiment passer directement là-dedans. Comment ça fonctionne? Donc, on peut enregistrer directement dans l'application. On peut importer de l'audio, mais aussi on peut couper des segments audio pour pouvoir faire du montage bout à bout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut brancher notre site web de WordPress à l'intérieur de l'application. Donc, quand on va publier, on va pouvoir publier à la fois le billet, mais aussi publier l'audio. On peut aussi ajouter une adresse FTP, comme moi j'utilise un service tiers pour enregistrer mes fichiers audio qui s'appelle Libsyn. Je pourrais mettre l'adresse FTP de Libsyn pour uploader les fichiers sur le serveur aussi. Donc, honnêtement, c'est une des premières solutions que je vois vraiment aussi complète que ça pour faire du podcasting et c'est pas très connu pour l'instant. Évidemment, lorsqu'on publie, bien, on peut mettre une description. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut mettre des liens. C'est le côté qui me semble un peu plus ardu d'aller éditer les liens à partir d'un iPad ou d'un iPhone dans un texte WordPress. C'est un petit peu moins évident. Moi, c'est cette partie-là que je ferai par la suite à partir d'un ordinateur, donc d'aller remettre les liens aux bonnes places. Donc, quand on est prêt, on peut publier ou sinon, si on s'en sert simplement comme solution d'enregistrement, bien, on peut se l'envoyer par email ou l'exporter avec différentes applications comme par exemple, je ne sais pas moi, Dropbox ou ce genre de choses-là. Donc, il y a eu des assez bonnes reviews dans certains médias. Moi, je vous conseille de l'essayer. Celui-là, je ne l'ai pas essayé honnêtement. J'en ai essayé plusieurs. Celui-là, je ne l'ai pas essayé. Ça a l'air très facile et l'avantage, c'est qu'on est indépendant, contrairement à d'autres solutions de podcasting où est-ce qu'on doit payer pour un service. Celle-là, on achète l'application et par la suite, on est totalement, totalement indépendant. Un autre service s'appelle Anchor. Ça dit « Radio by the people ». Qu'est-ce que ça fait, Anchor? Ben oui, ça nous permet, entre autres, de faire du podcasting, mais ça permet surtout de répondre à des podcasts. T'sais, vous savez, quand on produit un podcast, puis on veut du feedback, ben ça se passe sous forme de commentaires et ce n'est plus de l'audio. Tandis que ce service-là nous permet d'aller commenter en audio directement là-dessus. C'est une application qui est pour l'iPhone. Il y a aussi une interface web. Donc, on peut publier un peu partout à partir de ça. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Je ne l'ai pas essayé celui-là non plus, mais c'est un service qui me semble intéressant. Je vais un peu évaluer mes besoins puis voir si je devrais l'essayer de mettre ça sur mon site. Peut-être que ça pourrait être intéressant ou peut-être pas, mais je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Il y a une autre chose qui est en ce moment une rumeur, en quelque sorte, c'est que Apple aurait mis de l'avant un utilitaire qui s'appelle Podcast Connect pour gérer les mises à jour de nos podcasts. OK? Donc, On a vu certaines images qui ont leaké sur Internet où est-ce que ça nous permettrait, à partir de notre identificateur, le numéro d'identification, pardon, de chez Apple, d'aller gérer soi-même ses podcasts. Si vous faites un podcast, vous savez que lorsqu'on soumet son fil RSS, on n'a pas nécessairement de contrôle. Il n'y a pas nécessairement une interface dans iTunes pour gérer ses mises à jour, pour gérer son fil RSS, puis pour gérer ce qu'on met là-dedans. Donc, ça serait un utilitaire pour ça. Et avec l'explosion des podcasts qu'il y a en ce moment, moi, je trouve que ça serait une très bonne idée que Apple essaie un petit peu plus de donner du contrôle aux podcasters. Ils vont en bénéficier, eux aussi. Dernière application, ça s'appelle Cast. Cast, c'est quoi? C'est un outil de publication de podcast qui fonctionne uniquement dans un furteur. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais suivez-moi, vous allez vraiment comprendre. C'est un peu comme un service de streaming. Donc, un service de streaming, souvent, il faut être branché via une interface web pour le faire. Bien, c'est un peu ça, mais simplement pour l'audio. Donc, ce que ça fait, c'est que on se crée un utilisateur, on entre et là, on peut se mettre à enregistrer un podcast. Donc, oui, on passe par les ports audio. On peut se mettre une carte audio externe ou, par exemple, moi, j'ai une carte audio USB. Donc, pas vraiment une carte audio, mais en fait, des préamplis USB externes. Donc, je pourrais brancher mon micro, mon mixeur, toutes ces affaires-là là-dedans, faire rentrer l'audio. Et je commence à enregistrer. Lorsqu'on commence à enregistrer, on peut inviter jusqu'à 3 personnes pour participer à notre podcast. Donc, pour que ça fonctionne, faut que eux aussi soient sur Cast à l'autre bout et qu'on leur envoie le lien pour qu'ils puissent cliquer. Donc, en cliquant, ils s'invitent à notre podcast qu'on est en train d'enregistrer et on peut interagir. Donc, on se parle ensemble, on les entend, ça fonctionne assez bien. Je trouve que la partie enregistrement fonctionne assez bien. Je l'ai essayé. La partie édition du podcast, tant qu'à moi, demeure à être améliorée un peu. Il y a des fonctions justement pour couper des bouts d'audio, pour faire des mix, mais ce n'est pas aussi intuitif que dans des logiciels de montage vraiment dédiés. Donc, si moi je m'en servirais, ce serait vraiment pour faire des podcasts à distance avec d'autres gens, pouvoir interagir. J'enregistrerais tout ça comme ça en temps réel et je ne ferais pas d'édition personnellement dans l'outil, dans l'état qu'il est en ce moment. Le troisième outil qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est The Publisher. Donc, c'est l'outil de publication des podcasts. Et ça nous permet de configurer notre fil RSS pour le soumettre à iTunes, tout ça. Donc, ça fonctionne assez simplement. La seule chose, par contre, c'est que c'est gratuit pour le premier mois. Si vous continuez à l'utiliser, il faut payer. De mémoire, je crois que c'est autour de 10$ par mois. Donc, pour 10 heures d'enregistrement total par mois, et un seul fil RSS. Si vous voulez publier plusieurs émissions sur différents fils RSS et avoir beaucoup plus d'espace audio, ben c'est la version Pro qui est 30$ par mois et qui, là, commence à coûter un petit peu cher. Je vais vous mettre un lien dans les notes de l'émission. Moi, je pense que je risque de m'en servir. J'ai quelques projets futurs pour des podcasts. Donc, je vais regarder ça puis je vais vous en reparler lorsque j'aurais fait quelque chose avec ça. Je vais vous mettre un peu de musique, encore une fois de Jacques Brel, que vous avez probablement reconnu tout à l'heure, qui était de circonstance. Moi, après les attentats, je me suis mis là-dessus. J'ai écouté du Jacques Brel, justement en pensant à mes amis belges. La première chanson tout à l'heure, c'était Bruxelles, et celle-ci s'appelle Les Bourgeois. Je vous en parle tout de suite après.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent.
avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient.
Mon fils adore cette chanson-là parce que il nous laisse croire qu'il va dire autre chose. Hein? Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. Et là, on aurait tendance à essayer de faire rimer, ce qui serait logique. Et on sait tous qu'il veut dire con. Et ça, mon fils adore ça. J'ai une tonne de nouvelles à propos du podcasting pour vous. La première, ça dit Jabberjaw. Jabberjaw, c'est quoi? C'est Independent Talk and Entertainment, mais surtout, c'est qu'ils sont spécialisés. Ils ont vraiment une niche. C'est qu'ils mettent l'emphase sur la musique indépendante. Donc, il y a énormément de shows qui sont produits et en même temps, ben, ils essaient d'aller chercher justement du financement pour rentabiliser tout ça. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission si ça vous intéresse, allez faire un tour là-dessus. Autre nouvelle, il y a Radiotopia qui cherche le prochain show à faire partie de sa confrérie en fait. Qu'est-ce que c'est Radiotopia? Ben, ça a été démarré il y a un certain temps avec le podcast 99% Invisible, donc un podcast qui est très créatif, qui est allé en financement participatif pour trouver une façon de se rentabiliser. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont... se sont associés avec d'autres podcasters et ils ont joint d'autres shows. Donc, à mesure qu'ils allaient chercher du financement. Et là, en ce moment, il y a quoi? Une douzaine de shows qui sont produits. Généralement, ceux qui se joignent à leur groupe, c'est des gens créatifs, des gens qui ont du talent pour produire de l'audio de très grande qualité. Et ça, je pense que ça fait partie de leur médium. Si on ne produit pas de l'audio de grande qualité, ça ne marche pas. Donc, Contrairement à d'autres compagnies de podcasting, par exemple comme Gimlet, où est-ce que c'est une entreprise et tout le monde travaille chez Gimlet, Radiotopia, les gens demeurent indépendants et font ça à partir, je dirais pas de chez eux, mais presque comme ça. Donc, le truc s'appelle Radiotopia PodQuest. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on produit le show de nos rêves, le show qu'on veut produire, et on le soumet. Donc, c'est ouvert entre le 17 mars et le 17 avril. Donc, on est en plein milieu de ça. Après, qu'est-ce qui arrive? Ils vont évaluer tout ce qui aura été soumis. Il y aura 10 semi-finalistes qui seront dévoilés le 1er juin. Les 3 finalistes seront annoncés entre les 6 et 8 juillet à Podcast Movement, un événement que je vais vous parler tout à l'heure. La saison devra être mise en production entre juillet et octobre et le grand gagnant sera annoncé au mois de novembre. Donc, je vais vous mettre un lien dans les notes de l'émission. Si vous avez une idée incroyable pour ça, si vous êtes bon en anglais, parce qu'il faut que les podcasts soient produits en anglais, c'est sûr, essayez ça. J'ai une idée de podcast, j'aurais le goût de le faire, mais je pense que je vais manquer de temps pour soumettre. Les 10 semi-finalistes vont obtenir 300$ chaque, donc le risque n'est pas très grand pour courir la chance de gagner quand même 300$. Les 3 finalistes vont être choisis et leurs émissions pilotes, il y aura 3 émissions pilotes et ils vont recevoir 10 000 $ pour produire ça. Donc, chacun va recevoir 10 000 $, ce qui est quand même intéressant. Et à la fin, le grand gagnant, évidemment, ben, va faire partie de la grande famille. Et ben oui, eux, c'est un réseau qui est rentable de podcasting. Donc, ces gens-là font ça à temps plein. C'est sûr que ça donne des shows d'une grande qualité. Comme je vous mentionnais l'autre fois, Song Exploder, qui est d'un de mes podcasts préférés en ce moment, fait partie de la gang. Et je vous remets un lien dans les notes de l'émission pour aller écouter ça. ABC demande aux gens de leur lancer des idées de podcast, donc à titre de contributeur. Donc, ils vont aussi lancer leur premier podcast dédié aux enfants. Donc, c'est un peu à la manière de cbc.ca/submit où est-ce qu'on peut soumettre des idées. Et ça, c'est intéressant parce que les grands médias commencent à s'intéresser aux indépendants. C'est sûr que si on va toujours chercher dans les talents qui sont déjà à l'interne, la capacité de trouver des bons talents et des nouvelles idées est très limitée. Tandis que si on l'ouvre à l'externe, écoutez, il y en a des milliers de gens qui ont des bonnes idées et du talent et ils ne sont pas tous nécessairement employés de médias. Donc, ça aussi, si ça vous intéresse, ABC, je vous mets un lien dans les notes de l'émission, puis soumettez votre idée, votre candidature. Il y a différents shows comme ça qui ont été produits à partir d'ABC. Par exemple, Science versus et Short and Curly. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Allez faire un tour. Ça vaut la peine de regarder ça. Autre très grande nouvelle pour le monde du podcasting, le New York Times lance une équipe de podcasting qui va vraiment chercher à produire des émissions grand public, donc une tonne d'émissions grand public. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ces médias-là commencent à faire ça? C'est parce que l'argent des commanditaires au niveau du podcasting commence à être là. Il y a des sous à faire, il y a des émissions à supporter et c'est pas vrai quand tu es un média, par exemple, écrit comme le New York Times ou quand tu es un média télé comme ABC que tu as le talent pour faire nécessairement du podcasting. Donc, New York Times qui lance une équipe, moi j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là parce qu'ils vont chercher des gens qui étaient ailleurs, qui étaient chez NPR et à d'autres endroits et qui les amènent dans cette équipe-là. Donc, préparez-vous, d'ici quelques mois, il y aura des excellents, excellents podcasts qui seront produits par le New York Times. Autre nouvelle comme ça, c'est une nouvelle qui était à l'intérieur d'une deuxième nouvelle, donc qui disait faisons du podcast, mais selon la vision d'un blogueur, donc comment les blogueurs voient le podcasting. Il y a différentes informations, il y a différentes comparaisons, mais moi, ce qui est ressorti le plus de ça, c'est que la statistique pour 1950 blogueurs sur un sujet en particulier, il y a un podcasteur. Donc, s'il y a, par exemple, 1950 foodies qui écrivent un blog à propos de la nourriture, il y a un podcasteur. Et c'est comme ça pour la plupart des sujets. Donc, il y a une opportunité pour ceux qui ont des idées, et déjà des blogs de niche. Si vous voulez avoir énormément de succès en podcasting et probablement même plus de succès en podcasting qu'avec votre blog, je vous conseille vraiment d'essayer de partir un podcast. Ça vaut vraiment la peine. Une petite dernière nouvelle au niveau justement du podcasting, ça traite vraiment de la publicité en fait dans les podcasts. Pourquoi je vous en parle? Bien, je vais parler plus longuement de la publicité dans les podcasts dans une autre émission, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est là, qui est en train d'être mis dans les podcasts. Il y a beaucoup d'annonceurs qui mettent de l'argent et la valeur par émission, mais par téléchargement, est quand même assez élevée. Là où est-ce qu'il y a un petit quelque chose à clarifier, c'est la façon de mesurer les podcasts qui ne pourra jamais être 100% précise parce que la nature du médium fait qu'on ne peut pas mesurer si tous les téléchargements ont été écoutés. Par contre, étant donné que c'est un média très personnel, qu'on l'écoute dans nos oreilles et qui a un rapport très, personnel, mais aussi très particulier avec le podcast parce que pour écouter une émission, il faut rechercher pour cette émission-là, et il faut faire l'action de s'y abonner. C'est pas comme quelque chose qui joue juste comme ça par hasard à la radio. Donc, les gens sont beaucoup plus impliqués dans leur écoute. Ils sont vraiment motivés à l'écouter. Donc, c'est pour ça que la valeur est là. Les gens, quand ils sont abonnés à des podcasts, ils écoutent beaucoup plus que quand ils ouvrent simplement la radio ou la télé. Donc, c'est sûr que moi, j'encourage à faire en sorte que les podcasts, qu'on trouve des façons d'essayer de mieux mesurer, surtout que maintenant, la plupart des applications ne téléchargent plus les émissions, mais permettent d'écouter juste en streaming. Donc, moi, si vous voulez mon avis, si j'avais une application de podcasting en ce moment, ce que je ferais, c'est que je travaillerais pour bâtir un système de mesure qui va mesurer précisément les portions qui sont écoutées et lorsqu'il y a des pics d'écoute dans les sections, dans les émissions. Donc, il y a quelque chose à faire là et vraiment rester à l'écoute parce que dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez voir, il y aura de plus en plus de publicité dans les podcasts et ça sera maintenant un médium viable pour gagner sa vie et pour faire des émissions. Je pense que je n'ai plus de salive. Je vais vous faire jouer une émission. Je vais vous faire jouer une chanson. Pendant ce temps-là, je prends une gorgée de bière ou deux et puis je vous reparle tout de suite après.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du tronc, on a quitté du tronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur, comme toujours. Chauffez les gars et je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle.
Et oui, cette chanson que vous avez probablement déjà entendue de Jacques Brel qui s'appelle Vesoul. Je vais vous parler un peu d'équipement de podcasting parce que moi, mon enregistreur mobile, c'est-à-dire mon Zoom H4, est défunt. En fait, il y a juste un côté qui enregistre bien. Donc, et moi, j'ai besoin de deux canaux, donc canal stéréo, ou j'ai besoin parfois de deux micros. Donc, faut que je songe à remplacer cet équipement-là lorsque je fais des entrevues. Quoique, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait d'entrevue à l'extérieur, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Dans le futur. Donc, je regarde pourquoi. Je regarde pour différentes pièces d'équipement. Je regarde aussi pour acheter quelque chose de pas trop cher parce que, justement, ces pièces d'équipement-là sont fragiles et un jour brise. Quoique mon Zoom H4, je l'ai tellement trimballé partout, dans toutes sortes de conditions, sans jamais trop y faire attention. À un moment donné, c'est normal qu'il arrive ça, mais le problème, c'est que c'est pas... Je pensais que les boutons allait souffrir avant que l'électronique interne, et c'est finalement l'électronique interne qui a rendu l'âme d'un des deux côtés de l'audio. Donc, je regarde aussi du côté, d'ailleurs, de Zoom, le Zoom H1, qui est le modèle de base, qui a deux micros en X au bout, qui permet de capturer un son ambiant, mais aussi qui a une prise d'entrée pour brancher un micro externe. Et on peut même brancher deux micros, étant donné que c'est une prise, comme pour les écouteurs, ça prend le son stéréo. Si on divise ça en deux et on branche deux micros XLR, ça devrait fonctionner. On peut brancher des micros dynamiques. Donc, ça, c'est bien. C'est les micros que j'utilise normalement. On ne peut pas brancher deux micros à condensateur parce que les micros à condensateur, généralement, ça prend d'alimentation fantôme. Et dépendamment du micro dynamique, comme par exemple le micro que j'utilise pour mon émission, la puissance du signal ne serait pas tout à fait assez forte pour mettre là-dedans. Ce micro-là est meilleur lorsqu'il est préamplifié. Donc, il faut faire attention. Par contre, si vous avez des micros qui requièrent du plug-in power qu'on appelle, donc des micros qu'on dit à électret, ça peut fonctionner. Ce genre de micro-là, généralement, c'est des micros qui sont faits pour brancher à des caméras vidéo ou parfois certains micros cravates qui sont faits comme ça. Moi, entre autres, j'ai des micros stéréo qui vont dans les oreilles que je n'utilisais plus et qu'avec un appareil comme ça, je pourrais les brancher, je pourrais m'en resservir. Donc, je regarde de ce côté-là, vraiment pas cher, 100$ sur Amazon.ca livré à ma porte, tandis que, règle générale, c'est autour de 120$ dans les magasins. Donc, ça se peut que j'achète celui-là. Sinon, il y a un modèle chez Tascam qui s'appelle le DR5, donc DR-05, qui est vraiment l'équivalent du Zoom H1. Et ce que j'aime du Zoom H1, c'est qu'il y a beaucoup de boutons physiques. Si on veut enregistrer en Wave ou en MP3, c'est un bouton, on fait juste mettre la switch. On n'a pas à aller dans les menus comme la plupart des autres enregistreurs. Et c'est comme ça pour la plupart des fonctions. Et tout ce qu'on a à faire au final, c'est peser sur « Record ». On n'a pas à aller dans les menus, puis tout ça. Ça, j'adore ça. Le Zoom, pas le Zoom, mais le Tascam DR5, quant à lui, il faut aller un petit peu plus dans les menus. Il y a quand même beaucoup de boutons physiques. Il faut aller un petit peu plus dans l'interface. Ils sont vraiment très semblables. Le DR5 est un peu plus gros. Sinon, la même prise que sur le H1, donc pour brancher des micros externes, lui aussi, qui a simplement du plug-in power et non du phantom power. Donc, c'est un bon appareil. Si on veut un petit peu plus de versatilité et un petit peu plus de contrôle, c'est peut-être l'appareil vers lequel se porter. Sinon, dans les enregistreurs, je n'ai pas fait le tour, évidemment, quoique j'en connais plusieurs, mais un type d'enregistreur assez intéressant qui pourrait peut-être justement vous intéresser si vous voulez faire du podcasting, c'est le DR22WL. Qu'est-ce que c'est que le DR22WL? Bien, en fait, c'est un enregistreur qui a une capacité Wi-Fi. Donc, c'est un enregistreur qui a aussi des micros comme ça en X sur le dessus, qui a aussi une prise, celui-là, XLR. Je pense qu'on peut enregistrer avec du Phantom Power, contrairement aux deux autres dont je vous ai parlé. Donc, ça peut être intéressant, mais non seulement ça, c'est qu'il y a du Wi-Fi. Ce Wi-Fi-là, on peut le capter à partir de son téléphone intelligent pour contrôler l'enregistreur à partir du téléphone intelligent, donc si on n'est pas juste à côté de l'enregistreur. On peut s'en servir pour envoyer les fichiers à un appareil, donc oui, à un téléphone intelligent, à un iPad, à une tablette ou à un ordinateur. De la même façon que maintenant, bien, il y a des appareils photo Wi-Fi qui transmettent les photos automatiquement, il y a la même chose avec l'audio. Et à ma connaissance, c'est vraiment un des seuls produits d'enregistrement audio fait comme ça. Si vous voulez vraiment le top dans ce domaine-là, ben c'est le Tascam DR-44WL. C'est la même chose que l'autre, juste un peu plus gros, construction plus solide, un peu plus de contrôle. De ce que j'ai lu, on enregistre 4 pistes, donc ça peut aussi servir d'enregistreur multipiste pour faire des démos. Un peu mieux fait, les connecteurs aussi semblent mieux. Il y a des arceaux pour venir protéger les micros sur celui-là. Avoir un peu plus de budget, un peu plus de willing, c'est ça que je me servirais en même temps. Je suis très content du H1. C'est un appareil ultra simple. Puis j'ai comme l'impression qu'à court terme, c'est vraiment le H1 que je vais me procurer. On est rendu à la section où je parle. Où est-ce que je parle? Des événements. Donc, il y aura deux événements. Podcast Movement à Chicago les 6, 7 et 8 juillet. Donc, il y aura des invités très couru. Donc, Alex Bloomberg de Gimlet Media, la nouvelle compagnie de podcasting que je vous casse les oreilles avec depuis un certain temps. Sinon, il y aura aussi Kevin Smith. Kevin Smith, c'est le gars C'est Silent Bob de Jay and Silent Bob. Il fait aussi des podcasts, dont le Smodcast. Il sera là aussi comme conférencier. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin de Chicago au mois de juillet, peut-être que ça vaut la peine d'aller faire un tour. Il y a aussi une autre conférence qui s'appelle la Third Coast Conference. C'est pas juste dédié au podcasting, c'est aussi dédié à tous ceux qui produisent de l'audio, donc la radio, des gens qui travaillent l'audio, qui ont comme métier de travailler l'audio, mais il y a vraiment une grosse section podcasting. C'est aussi à Chicago, c'est le 11, 12 et 13 novembre. Donc, je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. Vous pourrez ainsi aller faire un tour sur ces sites-là et peut-être participer. En tout cas, je ne sais pas si j'irai, mais ça m'intéresse drôlement. Un dernier segment avant qu'on se laisse. Vous avez encore une fois été mettre des commentaires dans iTunes et des petites étoiles. Si vous ne l'avez pas fait, vous m'entendez depuis 4, 5, 6 émissions, vous cassez les oreilles avec ça, c'est le temps d'y aller. C'est mon salaire, ça me fait plaisir. Vraiment, ça m'encourage et ça a un impact. Je le vois dans iTunes. À l'occasion, mon podcast apparaît à cause de ça. Donc, vraiment, vraiment, allez faire un tour, allez mettre des étoiles et allez mettre surtout des commentaires. Depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, il y a 3 nouveaux commentaires qui sont apparus. Merci énormément. Le premier, c'est de Pulsation. Donc, ça dit « Hey, il faut écouter un des rares podcasts francophones au Québec. Sylvain est clairement un bâtisseur et un précurseur dans le monde des podcasts au Québec. Ne pas l'écouter est clairement un manque à votre culture. Laissez-vous évangéliser par l'art du podcasting et siroter une bière avec lui, ça vaut la peine. » Je ne sais pas qui est derrière Pulsation, mais merci. Je ne dirais pas bâtisseur, précurseur. Ben, moi, je trouve que je suis de la deuxième vague des podcasters, c'est-à-dire ceux qui ont commencé après les débuts. Donc, j'ai commencé 2 ans après le début du podcasting. Mais écoute, ça me fait plaisir. C'est sûr que si on compare avec aujourd'hui, le podcasting a commencé en 2004, on est en 2016. Oui, vu que j'ai commencé en 2006, j'étais un peu dans les débuts, évidemment. Il y a aussi M. Végiard qui, je pense, est Martin Végiard, qui dit « Bien qu'il soit un des premiers podcasts que j'ai écouté il y a quelques années lors de l'acquisition du premier iPhone distribué au Canada, les émissions sont toujours d'actualité et pertinentes dans notre ère de l'hyperactivité technologique. L'animateur Sylvain Grandmaison, par sa voix radiophonique, n'a rien à envier au poste de radio bourré d'annonces. Maintenant qu'il est revenu à un rythme de diffusion régulier, il ne fait qu'augmenter notre impatience à écouter la prochaine émission. Et je vais vous dire honnêtement, personnellement, que j'ai retrouvé cette impatience-là à produire le prochain show. J'ai recommencé à y penser tout le temps. Et ça, c'est bon signe. C'est bon signe pour vous et pour ma régularité d'émission. Je vous fais une petite parenthèse. Moi, quand mon fils est né, c'est l'année que le podcasting a commencé. Et ça a pris 2 ans avant que je commence à en faire parce que avoir un jeune enfant, c'est pas toujours évident. Ça demande du temps et de l'énergie. Et là, vous voyez, j'ai eu un autre enfant en 2014. C'est là que j'ai été le moins actif, l'année 2014 et l'année 2015 aussi un peu. Et vous voyez, on est en 2016, je reprends tranquillement le rythme. Ça prend 2 ans à se remettre de la naissance d'un enfant. C'est ça qu'il faut comprendre. De voir justement que la naissance de mes enfants est intimement liée au podcasting, je trouve ça plutôt sympathique. Un dernier commentaire qui dit un podcast ordinal à écouter et réécouter de Mont-Serge M. Ça dit une voix agréable, des commentaires intéressants, pas trop de musique, des propos matures et très intéressants par une personne réfléchie qui nous fait découvrir plein de choses. Une découverte à chaque nouvel épisode et une saine drogue pour le moral et surtout ne pas écouter au coucher pour ne rien manquer de ce podcast prioritaire sur ma liste. Merci de promouvoir les podcasts québécois. C'est la mission que je me suis donnée en 2006 de promouvoir le podcasting et les podcasts québécois et justement de faire en sorte qu'il y ait une communauté de podcasts saines et au Québec. Et ça a diminué les dernières années. Là, maintenant, il y a plusieurs nouveaux podcasts. Ça serait le fun qu'on recommence à faire des événements dédiés au podcasting. J'y pense de plus en plus. J'ai le goût de recommencer ça. Si ça vous intéresse, envoyez-moi vraiment un petit courriel. On pourra mettre ça en branle, là. Faire des rencontres de podcasters ou des événements ou de la formation ou peu importe. Juste aller prendre une bière dans un bar, se jaser de micro, d'enregistreurs et de web et de choses et d'autres. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, je vais vous laisser avec une dernière chanson de Jacques Brel. Envoyez-moi vos commentaires sur québecbalado@commercial.gmail.com. Vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire au groupe Facebook. Je vais préparer de l'audio, vous mettre des choses inédites qui n'ont jamais été publiées dans mon podcast auparavant. Et puis, ben oui, abonnez-vous à mon fil Twitter. Je sais pas, faites quelque chose. Amusez-vous sur le web, c'est un terrain de jeu immense. Je vous laisse avec la chanson Jaurès de Jacques Brel et je vous reparle très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Ciao!
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?